Et j'aimerais suggérer d'abord de parler d'une manière descriptive, une introduction, et après, dans la deuxième partie, ce sera plutôt une vue réflexive, théologique, et pour la troisième, je vous inviterai de partager avec moi une vision prospective. Qu'est-ce qui se passe avec le futur, peut-être le rôle des églises pentecôtistes et charismatiques. Alors d'abord, quelles sont les conceptions générales du pentecôtisme? Certainement, les pentecôtistes ont leur emphase sur le Saint-Esprit. Et ils aiment parler au sujet du baptême du Saint-Esprit. Et on les connaît partout parce que, apparemment, ils parlent tous en langue. C'est-à-dire une sorte de prière mythique, exotique. Et après aussi, ils connaissent un élément prophétique. Spécialement dans le sens de directif personnel. Mais si on veut parler du mouvement pentecôtiste, on parle aussi souvent sur leur emphase, sur la guérison, qui est un aspect du salut. N'est-ce pas? On est sauvé par la grâce de Dieu et par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais comme le dit le prophète Isaïe, la guérison a aussi une autre dimension. Généralement, si on parle du mouvement de Pentecôte, on parle d'une spiritualité avec une louange très expressive. Si vous allez en Afrique ou en Amérique latine, on danse. Et on danse, et on chante, et on danse. Et des fois, ça dure une heure ou deux heures. Et après, il y a la parole, la prédication. Souvent, c'est à haut volume et avec une physicalité prononcée. Et des fois, il y a pas mal de gens qui disent « Oui, le pentecôtiste, alors là, leur expression théologique est un peu risquée. » Et finalement, si on parle du mouvement de Pentecôte, on reconnaît qu'il a une grande popularité dans l'hémisphère sud et parmi les églises des migrants dans les grands centres urbains. Ça, sont à peu près les conceptions générales. Permettez-moi de suivre les traces de Louis Schweitzer et de parler un peu des origines du mouvement pentecôtiste et de sa spiritualité. Et au lieu de tracer l'histoire du pentecôtisme à partir de la Réformation, je vous invite à un voyage rétrospectif, une vue à l'inverse, afin que nous pouvons apprécier la situation de ce mouvement dans le contexte de l'histoire de l'Église et dans le contexte du présent. Alors le réveil pentecôtiste avait son début dans le début du dernier siècle et c'était précédé par le mouvement de sanctification dans le 19e siècle. Le mouvement de sanctification, si vous le dites comme ça en français, c'était surtout en Angleterre et aux États-Unis. Un des fruits du mouvement méthodiste. Et tout à coup, il y avait ce désir par les cercles plus piétistes, le désir de vivre une vie à plaire Dieu, C'est-à-dire l'enseignement de Wesley a été repris et les gens ont voulu avoir ou vivre dans une sanctification concrète. Et vite après cela, il y avait aussi un autre courant, notamment l'idée d'une restauration du temps apostolique, avec toutes ces manifestations. Alors, à la fin du 19e siècle, il y avait pas mal de réunions aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en Europe centrale ou continentale, où on se demandait si peut-être le Saint-Esprit pouvait regagner sa souveraineté parmi son peuple et qu'il puisse implémenter le royaume de Dieu dans un nouveau siècle, dans le 20e siècle. Une bénédiction exemplifiée par le symbole d'une deuxième pluie, d'une pluie d'automne. Si on va encore un pas de retour, alors il faut parler du mouvement méthodiste de John Wesley et la théologie de Jean de la Fléchère. Et comme on a entendu déjà, John Wesley avait son emphase sur la présence de Dieu et que cette présence de Dieu peut être expérimentée directement. Quand il était un petit enfant, il a été sauvé du feu. Pour lui, c'était une expérience probablement traumatique, mais aussi une expérience de grâce, que plus tard, il a reconnue quand il avait sa rencontre avec les frères Moraves, comme nous l'avons entendu. Une manifestation de grâce. Et il avait, dès du commencement, dit qu'une conversion peut être un processus, peut en même temps une crise. Mais en tout cas, c'était une sorte de première bénédiction. Et puis, la sanctification et les fruits d'esprit, de l'esprit, c'est une conséquence pratique de la présence de Dieu dans la vie du croyant. John Wesley avait une vue plutôt arminique que calviniste, comme nous l'avons entendu. C'est-à-dire, il voyait la conversion non comme le don de Dieu donné par sa libre volonté et prédestination, mais plutôt comme entreprise entre la bonne volonté de Dieu et la disposition positive de l'être humain. Et puis, Jean de la Fléchère introduit l'idée de l'histoire du salut comme réflexion de la Trinité. Alors, le Père était représenté dans l'Ancien Testament, le Fils par les Évangiles et le Saint-Esprit par la Pentecôte et l'histoire de l'Église. Alors, la notion du baptême par le Saint-Esprit a été commencée d'être vue comme une deuxième bénédiction, avec le but d'équiper le chrétien pour une vie sanctifiée et de témoignage pour la volonté de Dieu et par l'œuvre de Jésus-Christ. Si on recule encore un pas, on trouve le piétisme des frères Moraves, une spiritualité très personnelle et en même temps communautaire, comme nous l'avons aussi entendu, ce qui concerne les anabaptistes. Et c'est drôle, il y a deux jours, j'avais la règle des classes et des bandes que John Wesley crée. Et aujourd'hui, en lisant la discipline de Berne, c'est très intéressant de voir les parallèles. Certainement, si on recule encore un pas, nous avons la Réformation, et l'emphase sur la parole divine, le salut comme don de grâce, basé par la foi en Jésus-Christ. Le fait que John Wesley connaissait les Écritures du Moyen-Âge et les langues antiquités chrétiennes lui permettait d'apprécier leur enseignement au sujet du rôle du Saint-Esprit. Imaginez-vous, John Wesley savait lire le Nouveau Testament grec à l'âge de 8 ans. Il connaissait au moins 8 langues. Alors, il a lu beaucoup. Il a lu le danois, l'allemand, n'importe quoi. Mais pas seulement ça, il connaissait aussi la littérature des églises orientales. Alors, de ce point de vue-là, il connaissait l'enseignement au sujet du Saint-Esprit, pas seulement de Calvin, mais pas seulement de Augustin, mais il avait vraiment une riche éducation grâce à sa mère qui s'occupait de cela. Et c'est avec ce arrière-plan que nous voyons sa générosité œcuménique, comme nous l'avons aussi entendu. Et c'est tout cela qui est devenu et qui est aussi arrivé au pentecôtisme. Nous pensons souvent au pentecôtisme comme un phénomène américain, mais il faut peut-être aussi réfléchir au commencement du pentecôtisme en Europe, dans l'année 1907 et même 1906. Le premier pasteur anglais qui était pentecôtiste, c'était un anglicain, Alexander Body. Le premier pasteur en Norvège, c'était un méthodiste. Le premier pasteur en Hollande, il était de l'armée du salut. Le premier pasteur en Allemagne, il était luthérien. Ça m'empêche le nom du pasteur français qui était protestant, Jean-Louis Dallière. Alors, nous voyons, en mentionnant que ces petits exemples, que le commencement du mouvement Pentecôte en Europe, il était très varié. Dans un certain sens, c'était un contexte écuménique. Parce que tous ces gens, tous ces pasteurs se sont rencontrés avec leurs différentes traditions. Et ce qu'il y avait en commun, c'était le désir de vivre une spiritualité profonde. Mais Jonathan Pahl, en Allemagne, il le faisait avec un arrière-plan luthérien, par exemple. Bien. Alors maintenant, je vous invite de voir le contexte spirituel dans lequel la présence et l'action du Saint-Esprit est appréciée et interprétée. Et ce que je vous dis, c'est rien de nouveau. Vous vous reconnaîtrez en partie dans vos églises. Ce que l'on a expérimenté, ceci est raconté et témoigné. Donc, nous vivons dans une tradition plutôt orale. Et la réflexion est une réflexion ouverte. Parce que si on parle ensemble, il y a des interpellations, il y a des questions, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors le processus de comprendre les expériences, c'est un processus ouvert. Et pour cela, on peut aussi parler d'une participation générale dans le culte. La louange, les gestes de solidarité, les interpellations, tout sont possibles par tout le monde. En théorie, en tout cas. Troisièmement, je vois que il y a la place pour la prophétie, pour les visions, pour les rêves. Donc, c'est une disposition pour l'inattendu. N'est-ce pas? Mon église pentecôtiste à Zurich, elle a 1600 membres. Il y a à peu près 2500 qui viennent chaque dimanche au culte, parce que nous avons 4 cultes pour accommoder tout le monde. Si vous avez une telle grande organisation, la disposition pour l'inattendu est un peu limitée. Surtout si vous avez encore tout qui est télévisé. Et, alors il faut s'arranger, n'est-ce pas? Mais la disposition pour l'inattendu se trouve souvent dans les petits groupes, dans les cellules qui se rencontrent une fois par semaine. Et des fois, il y a aussi l'inattendu qui vient dans le culte. Mais c'est plutôt l'exception que la règle. La troisième chose dans ce contexte spirituel, pour moi, c'est que le corps et l'esprit sont considérés comme unité. Nous sommes dans une culture européenne où on parle souvent de l'esprit, et nous avons même une tradition puritanique probablement qui sépare le corps et l'esprit. Mais dans la culture pentecôtiste, qui est en effet aussi une culture des Africains, des Américains noirs, on danse, on se touche. Moi j'étais une fois pour plusieurs années président du conseil d'église d'une église réformée à Zurich. Alors je sais très bien comment prie quand on a le culte et que c'est une manière plutôt intellectuelle. Et si vous allez dans une église pentecôtiste africaine, alors on a l'impression que c'est plutôt une chose physique. Mais ce qui est important, c'est que le corps et l'esprit vont ensemble. Qu'il n'y a pas d'une séparation. C'est pour ça que la santé physique, la santé psychique et la santé spirituelle, ils vont ensemble. Et comme j'ai dit, le point numéro 5, c'est que le contexte se donne dans des petits groupes. Si vous êtes dans mon église, vous pouvez la visiter pour une année et être très anonyme, parce qu'il y a trop de gens, on ne se connaît pas tous. Mais nous avons à peu près 160 de ces cellules qui se trouvent, qui se rencontrent chaque semaine, et c'est dans ces petites cellules où on a un esprit de communauté, où on peut aussi dire, moi j'ai un tel et tel défi dans ma vie ou un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quelque chose qui est aussi peut-être important dans mes cercles, c'est comme ils lisent la Bible. Ça serait le point numéro 6. La lecture biblique est non seulement pour l'information, pour savoir plus. Non, c'est aussi pour la transformation. Que veut ce texte me dire aujourd'hui? Alors, l'application théologique est plutôt par analogie et métaphore. Mais c'est quelque chose que nous trouvons dans beaucoup de traditions chrétiennes, n'est-ce pas? Je peux récapituler d'une autre manière. La spiritualité pentecôtiste a 4 éléments. Et là, j'ai trouvé l'inspiration dans un livre de Mark Cartledge, dans la même série comme on a eu là sur l'anabaptisme. Il y a aussi un livre sur la tradition charismatique, la spiritualité charismatique. Encountering the Spirit. Et là, Mark Cartledge, qui est professeur à l'université à Birmingham, il dit d'abord nous avons la louange dans un contexte informel, dans un style contemporain, avec une participation de tous et en même temps avec une intimité profonde. Et on trouve aussi dans la louange cette inclusion de prières communautaires que tout le monde prie ensemble et en même temps qu'il y a beaucoup de prières individuelles. Par exemple, dans mon église, de temps en temps, le pasteur dit, peut-être dans la moitié de la prédication, tournez vers votre voisin. Et maintenant, on a une ou deux minutes de prière ensemble, l'un pour l'autre. Et comme M. Hollenweger l'avait dit il y a 40 ans, les cantiques des pentecôtistes, en tout cas dans les années passées, représentaient une bibliothèque orale de la foi. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de pentecôtistes aujourd'hui dans le Pierre-Mante qui ne savent pas très bien lire, mais ils connaissent les chansons. Et leur foi est représentée par ces hymnes, par ces cantiques, par ces chansons. Et c'est ça qu'ils retiennent et qui vivent, c'est une manière de vivre leur spiritualité avec ces cantiques. Quelque chose qui est important, c'est que dans la louange, c'est Dieu qui est considéré l'agent principal. Et c'est pour ça que la louange est aussi ouverte. Deuxième moment, le deuxième élément que Mark Cartledge nous dit, c'est la parole inspirée. Le don du Saint-Esprit, c'est une expérience souvent bouleversante, peut-être de temps en temps inquiétante, comme avec la description de John Wesley. Mais ça ne doit pas toujours être le cas que c'est bouleversant. Mais ça, c'est une expérience qui change l'être humain. Il y a une année, je suis allé visiter Walter Hollenweger. Et peut-être vous savez qu'il avait ses racines dans le mouvement pentecôtiste. Après, il a écrit beaucoup au sujet du mouvement pentecôtiste. Mais il était un pasteur de l'Église réformée. Alors, quand il avait 78 ans, je lui ai demandé, et le baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu y penses aujourd'hui? Et il m'a dit, Jean-Daniel, tu sais, le baptême du Saint-Esprit a complètement changé ma vie. Et j'étais plus le même après. Alors, vous savez que Walter Hollenweger, des fois, peut dire des choses très, très critiques au sujet des églises réformées et au sujet des églises protestantes. Mais c'est intéressant de voir que même lui, quand il réfléchit à ses expériences, il dit « Cette expérience a vraiment changé. » Et puis, la parole inspirée, c'est aussi parmi des expériences révélatrices, surtout dans les cercles charismatiques. On connaît les paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des dons de discernement. Des fois, il y a des prières publiques avec une portée très spécifique. Même dans une prière publique, ça peut arriver que ce qui est dit a une portée prophétique. Mais heureusement, ce n'est pas seulement le cas dans les églises pentecôtistes ou charismatiques, c'est dans toutes les églises où Dieu accomplit sa volonté, que ça peut arriver certainement. Alors, de s'exprimer dans des langues inconnues, c'est simplement un aspect. C'est certainement pas la seule chose. À Louvain, j'ai parlé une fois avec un professeur de psychologie de la religion. C'était un prêtre catholique et il nous a raconté en classe pourquoi il a commencé d'apprécier la louange charismatique. Il y avait deux pensées. La première pensée, c'était qu'il disait, pour la première fois, j'avais réalisé qu'on pouvait louer Dieu pour ce qu'il était. Simplement louer Dieu pour une demi-heure à cause de sa majesté, sa grandesse, sa souveraineté. Et qu'on pouvait faire ça pour longtemps. Et pas tout de suite tourner aux propres désirs, aux propres difficultés, aux prières que Dieu nous aide. Mais d'abord simplement d'avoir du temps de réfléchir à qui Dieu est. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qu'il m'avait dit, c'est le parler en langue, c'est pour moi, parce qu'il parlait aussi en langue. Pour moi, c'est une prière thérapeute. Avec ma langue, je peux dire des mensonges. Avec ma langue, je peux être méchant. Je peux perdre mes nerfs et dire des choses qui blessent les gens. Alors, j'ai pas un instrument pur. Parce que c'est un instrument de chaque jour. Mais quand je parle en langue, j'ai pas ce blocage. Je parle d'une manière avec Dieu qui est complètement libre. La troisième chose que Mark Cartledge nous dit dans l'élément de la spiritualité pentecôtiste, c'est quelque chose que vous avez jamais entendu à l'avance, auparavant. C'est la sanctification. La tradition méthodiste qui voit une vie sanctifiée comme réponse à la justification par Dieu. Et pour les méthodistes, aussi pour pas mal de pentecôtistes, il y a une dimension éthique dans la sanctification. Dans la vie du croyant, qui veut se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Des fois que... Moi, j'ai pas une télévision à la maison parce que j'ai pas le temps de voir la télévision, mais quand je suis dans un hôtel, dans un autre pays, je regarde ce qu'ils ont. Et souvent, ils ont des cultes religieux, des émissions charismatiques, pentecôtistes dans la télévision. Je sais bien que il y a là de temps en temps je me demanderais où est la portée éthique dans tout cela. Hein? Nous avons beaucoup à apprendre. Mais il y a aussi une emphase catholique sur la sainteté divine, et c'est pour ça que ce professeur avait dit ça probablement, parce que c'était tout près de lui comme prêtre catholique. De se réjouir dans la sainteté de Dieu, dans la louange, dans la prière. Alors, ce qui concerne la sanctification, Gordon Fee, qui est un exégète du Nouveau Testament, un pentecôtiste, mais aussi d'une riche expérience dans la vie pentecôtiste, parce que ses parents étaient déjà pentecôtistes, il avait dit: ce qui concerne la sanctification, ce n'est pas une perfection divine. Mais toutefois, c'est une infection divine. La quatrième chose qui est importante dans la spiritualité pentecôtiste, c'est probablement le rôle du témoignage. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous expérimentons une capacitation. Ou comme les Québécois disent, un empouvoirment. une capacitation pour témoigner avec une conviction, un dynamisme pour effectuer le défi donné. C'est pour ça qu'ils insistent aussi au signe et au miracle, comme dans les temps apostoliques, parce qu'ils sont convaincus que les signes et les miracles confirment la parole de l'Évangile. Mais le rôle du témoignage est aussi dans une tension eschatologique. Parce que d'un côté, on voit les premiers fruits du royaume, du nouveau royaume de Dieu, mais aussi le fait que nous sommes ici sur terre et vivons une vie avec des limitations. Et c'est dans ce contexte que les témoignages des croyants sont reçus. Alors, quoi faire? Si on a des rêves, si on a des témoignages, si on croit à la direction ou la mouvance du Saint-Esprit, et si on croit à la parole divine, comment interpréter tout ça? Dans les églises classiques, c'était le prêtre, le pasteur, qui connaissait les Écritures, et c'était lui qui interprétait tout à travers les Écritures, n'est-ce pas? Et si vous êtes catholique, à travers l'Écriture et la tradition. Dans le pentecôtisme, c'est un peu dangereux. Parce qu'on a parlé que c'était ouvert, tout le monde pouvait participer. Alors, si c'est le cas, que tout le monde peut participer, nous avons aussi une communauté d'interprétation. Tout le monde peut participer à l'interprétation de ce qui se passe. Mais il faut utiliser la parole pour interpréter la parole. Les pentecôtistes aiment bien de lire quelque chose dans le Nouveau Testament et de lire quelque chose dans l'Ancien Testament et de faire la connexion. Mais ça aussi, c'est une tradition protestante. Mais la communauté d'interprétation est aussi dans un dialogue entre les expériences racontées dans la Bible et les expériences vécues. Alors si, par exemple, les premiers pentecôtistes parlaient en langue, ils lisaient les actes des apôtres pour voir est-ce qu'il y avait une analogie. Mais ce n'est pas seulement un dialogue entre les expériences personnelles et les expériences ou les racontes bibliques, c'est aussi un dialogue entre différentes expériences parmi le corps du Christ. Et là, on a une clé herméneutique, une clé pour l'interprétation. On pourrait dire que chaque expérience spirituelle doit être donné par l'Esprit, validé par l'Écriture et confirmé par la communauté. Et moi je dirais même confirmé par le monde. Oui. Chaque expérience spirituelle doit être donnée par l'Esprit. C'est un don. C'est un mouvement de grâce, et ça doit être donné par l'Esprit Saint, pas par l'Esprit humain, par quelque autre esprit. Ça doit être deuxièmement validé par l'Écriture biblique, dans ce sens-là, les pentecôtistes sont très fortement dans la tradition protestante. Ils vont pas voir qu'est-ce que les premiers pentecôtistes ont écrit. Ils vont directement ils essayent de comprendre la Bible en lisant la Bible directement, pas à travers des lunettes de certains caractères pentecôtistes. Et ça doit être confirmé par la communauté. Par exemple, si vous avez un témoignage, vous dites quelque chose en public, et tout à coup, il y a quelqu'un au coin qui se lève et dit, mais c'est pas vrai, je te connais, tu es quelqu'un, tu as un style de vie qui est totalement différent. Ça se passe. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent se présenter parce qu'ils ont peut-être ils n'ont pas encore avec la paix avec eux-mêmes. Et si on donne un témoignage, c'est quelque chose de dangereux. Parce que c'est la communauté qui peut faire une interaction, qui peut critiquer, qui peut aussi confirmer ce qu'on dit. Ou par exemple, si moi j'ai dit, oh, j'avais une vie terrible, mais tout à coup, j'avais une expérience avec le Seigneur et il m'a montré que je devais changer. Et cette personne dit, comme il y avait un processus de changement dans sa vie, et maintenant, je suis une nouvelle personne où je fais ça et ça plus. Alors, tous les gens qui ont entendu ce témoignage peuvent, dans 2 années, dans 3 années, se souvenir ce qu'il avait dit, peut voir, est-ce que tu vis vraiment comme tu as dit? C'est peut-être ça la fonction du témoignage qui est aussi un moyen d'évangélisation parce que quand les autres gens voient qu'il y a une corrélation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, alors ils le croient. Surtout si ça donne gloire à Dieu. Bien. Peut-être, il faut quand même dire qu'il y a une importance différente entre le mouvement de sanctification avec les origines méthodistes et le mouvement pentecôtiste. Parce que pour les méthodistes, le Saint-Esprit est donné par Dieu pour faciliter la sanctification. Et les pentecôtistes ont donné une nouvelle dimension à ça. Ils ont dit, oui, c'est vrai, le Saint-Esprit nous est donné pour faciliter notre vie, notre progrès dans la sanctification. Mais le Saint-Esprit nous est aussi donné comme don de puissance, de pouvoir pour communiquer l'Évangile. Alors, pas seulement un don intérieur pour la sanctification personnelle, mais un don extérieur qui s'ouvre au monde. Parce qu'ils disent dans les premiers chapitres les Actes des Apôtres, ils ont reçu le pouvoir, la force, la dynamisme pour proclamer l'Évangile. Et cette force du Saint-Esprit a aussi donné ses miracles et ses signes. Alors, j'aimerais donner 3 exemples. Comment ce empowerment, cette appropriation, cette capacitation se montre dans une situation concrète. Par exemple, une femme dans la Sicile. Parce que le mouvement pentecôtiste dans les années 20, 30, 40 était très, et encore maintenant, très fort au sud de l'Italie. Mais imaginez-vous, nous avons la situation très patriarcale dans une famille, et au-dessus de cela, vous avez la mafia. Et la femme n'a rien à dire. Elle s'occupe de la maison, du foyer, des enfants, de la cuisine. elle n'a pas de parole. Et tout à coup, dans une réunion, elle donne sa vie à Jésus-Christ, elle expérience une conversion, et peu après, peut-être, aussi, d'une manière ou d'une autre, la présence du Saint-Esprit. Et tout à coup, cette femme, elle est au même niveau que le pasteur, presque, au même niveau que tous les autres femmes et les autres hommes. Parce que si elle a le don prophétique, elle parle pour toute la communauté. Et si elle parle aux hommes de changer leur chemin, je ne pense pas que cette femme, par exemple, avait dit « Vous ne pouvez plus collaborer avec la mafia. » Ça serait trop dangereux pour cette femme. Mais les hommes le savaient très clairement. Les dimensions éthiques qui étaient portées par cette prophétie. Un autre exemple d'une portée éthique, c'est les femmes dans l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pentecôtistes dans l'Afrique du Sud. Et l'homme, il va dans les mines pour chercher des diamants ou de l'or. Il gagne de l'argent, mais il n'est jamais à la maison. C'est la femme qui doit s'occuper des enfants, mais la femme ne gagne pas de l'argent. Et sans argent, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Et tout à coup, si cette femme trouve la foi en Jésus-Christ, et quand la prochaine fois elle voit son mari, elle lui dit, c'est pas la volonté de Dieu que tu bois l'alcool et que tu gâches tout l'argent que tu as économisé. Tu dois la reporter à la famille. Alors, nous voyons une portée éthique, mais on voit aussi une portée sociale. Parmi, par exemple, les non-éduqués en Amérique latine, c'est incroyable comme il y avait un mouvement social parmi les églises pentecôtistes pour aider aux gens de trouver leur position dans la vie. C'est là de nouveau où on parle de empowerment en anglais. Et les femmes ont appris à le lire. Et les femmes ont pris des cours pour travailler comme, comment on dit en français, pour faire des habits. Pour l'écouter. Et il me semble aujourd'hui que pas mal de pentecôtistes expérimentent une appropriation, une capacitation aussi dans le sens d'une portée existentielle. Pensez aux immigrants à Genève, à Lausanne, un peu partout dans la Suisse. Des ouvriers, des sans-papiers, qui sont déracinés, ils sont dans un autre pays complètement, souvent sans leur famille. Quelle est leur existence? Pour une grande partie, ces immigrants, quand ils viennent dans une église chrétienne, dans une église des immigrants, c'est souvent d'une sorte une église pentecôtiste. Et c'est dans ces églises immigrants qu'ils reçoivent un nouveau espoir, parce que c'est Dieu qui leur donne un sens de vivre, un espoir, que malgré toute injustice, qu'un jour la justice de Dieu les revendique. Un autre contexte qui peut-être vous intéresse, c'est la vocation ou le but de la vie. Quand le mouvement pentecôtiste commençait à Los Angeles 1906, il y avait beaucoup de missionnaires qui n'étaient pas pentecôtistes, qui venaient voir et s'informer. Et pour beaucoup d'eux, c'était un moment de réveil personnel. Parce que c'était comme si c'était le baptême du Saint-Esprit leur donnait un nouveau défi dans leur vie d'être missionnaire, une nouvelle joie, un nouveau pouvoir d'aller dans les pays où ils étaient missionnaires. C'est incroyable. Il y a plusieurs livres. Un livre d'un Américain, Cecil Mel Robeck, qui a écrit un livre de à peu près 500 pages que sur le réveil qui a eu lieu à Azusa Street. Et un chapitre de entre 30 et 50 pages raconte où tous les missionnaires sont allés dans les premiers 6 mois de ce réveil. Et c'est très très intéressant de lire ça, par exemple. Alors, on avait des pentecôtistes dans l'année 1907, disons 9 mois après le réveil commencé. On les avait en Latin-Amérique, au Brésil, on avait en Libéria, en plusieurs pays de l'Afrique, on avait en Europe, on l'avait en Russie, on l'avait en Inde et on l'avait en Chine. Et oui, le dernier contexte que je veux mentionner, c'est la guérison. C'est un symbole du nouveau royaume. C'est une représentation du ministère de Jésus-Christ. Mais c'est aussi le médecin des pauvres. Il y avait 30 ans, je chantais dans un groupe musical et on voyageait par la France. Et il y avait une femme qui venait après le culte et qui me disait, je sais pas, je les ai fait juste à... Mais une fois, à 4 heures du matin, mes trois enfants avaient tout à coup la fièvre. Et puis, je n'avais pas une manière d'aller chez le docteur. Et c'était 3 heures ou 4 heures dans le matin, j'ai pas pu téléphoner le pasteur. Alors, c'est moi qui a prié pour mes enfants. Heureusement qu'elle a fait ça, parce qu'il ne faut pas un pasteur pour prier pour ses enfants qui regagnent une bonne santé. Mais pour elle, elle n'était pas sûre, parce qu'elle est venue d'un contexte catholique, et c'était tout qui se passait par le prêtre. Alors j'ai compris que d'une manière ou l'autre, elle pensait maintenant qu'il fallait quand même, si on voulait être biblique, selon Jacques chapitre 5, d'informer les anciens de l'Église et qu'eux prient pour les enfants malades. En tout cas, ces enfants, 1 heure plus tard, à 5 heures du matin, étaient tous sans fièvre. Alors, vous voyez, c'est un exemple que pour beaucoup de pauvres, Jésus est aussi le médecin, leur médecin, très pratique, parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas de aspirine à la maison. Et finalement, la guérison, c'est un symbole pour un défi à la mort. Theological roots of Pentecostalism, les racines théologiques du pentecôtisme, et ça va, c'est un dialogue avec l'héritage méthodiste, et puis quelque chose plutôt nouveau d'un Finlandais qui est instituteur à Fuller Theological Seminary en Californie, sur la pneumatologie dans un contexte œcuménique international. C'est très intéressant aussi, mais un peu théologique. Alors, merci que vous avez de la patience avec moi. Malgré que j'ai une grammaire un peu exotique.
Ça nous stimule.
J'aimerais vous inviter à une section réflexive, c'est-à-dire une réflexion plutôt théologique. Et heureusement, nous ne sommes plus dans la tension théologique qui accuse le pentecôtisme d'être une secte diabolique. Comme si ceci était encore le cas dans la première moitié du XXe siècle. Ni sommes-nous obligés à définir la théologie pentecôtiste contre des doctrines d'autres églises. Alors, je vous invite de faire un tour d'horizon de différentes pneumatologies du christianisme afin que nous pourrons découvrir les valeurs et les défis qui nous sont posés. Et j'aimerais commencer avec l'emphase de la réformation, et de ce sens-là, c'est bien que Calvin viendra après moi. Pour les réformateurs, le Saint-Esprit est nettement une partie de la Trinité, c'est clair. Mais pour la plupart, ils n'ont pas développé une pneumatologie parce que c'est l'œuvre du Christ qui est centrale. Et le Saint-Esprit est le côté silencieux de l'économie divine. Alors, pour les réformateurs, une fonction centrale du Saint-Esprit est vue dans l'ouverture de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est considéré comme l'herméneute du texte biblique. Aussi, le Saint-Esprit, il est actif visiblement dans la prédication et parmi les sacrements. Mais aussi, il y a une activité intérieure du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Et dans une bonne théologie réformée, nous voyons aussi que le Saint-Esprit est vivant dans l'Église. Et que c'est le Saint-Esprit qui mène son peuple vers le futur. Ecclesia semper reformanda, n'est-ce pas? L'Église se réforme tout le temps par le Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit sont interprétés dans un contexte éthique et social. Mais nous avons aussi une autre tradition, la tradition catholique. Et l'enseignement catholique est d'une bonne partie basé sur les pensées d'Augustin. Le Saint-Esprit est surtout actif dans les sacrements. Dans le baptême, le don du Saint-Esprit est donné à l'enfant. Dans le baptême de Jésus, le Saint-Esprit est une confirmation de la volonté divine. Analoguement, toutes les personnes baptisées reçoivent le Saint-Esprit comme don de Dieu. Mais dans la tradition catholique, le Saint-Esprit donne aussi le renouvellement. Le renouvellement de l'Église était toujours une possibilité dans la tradition catholique. Et nous le voyons, par exemple, avec François d'Assise, ou les mystiques du Moyen-Âge. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas considéré comme sacrement dans la tradition catholique. Je trouve que c'est bien. Malgré tout, on peut dire que l'action du Saint-Esprit est sacramentale. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit peut être actif parmi toute l'Église. Alors pour beaucoup de catholiques charismatiques, le don de l'esprit qui était infusé dans le baptême se montre dans un renouvellement. C'est un symbole. Les dons charismatiques sont un symbole du renouvellement par le Saint-Esprit. Le réveil charismatique, donc, est considéré comme action divine pour le renouvellement de l'Église. Moi, j'ai vécu en Belgique de l'année 1975 à 85, et puis j'ai vécu l'impact du mouvement charismatique catholique en Belgique. C'était très intéressant de voir au commencement que ce renouvellement était par beaucoup de laïcs, mais pas seulement les laïcs, il y a les religieux et les prêtres aussi qui étaient part de ce renouvellement. Et 10 ans plus tard, c'était toujours encore là, mais c'était sous le contrôle des religieux et les prêtres, et plus parmi les laïcs. Les laïcs y participaient, d'une même manière que nous participons à n'importe culte. Alors on a parlé un peu, très peu, de la tradition réformée, la tradition catholique. Donnez-moi la chance de dire quelques mots sur le point de vue orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, le rôle du Saint-Esprit est beaucoup plus central. C'est l'Esprit Saint qui nous introduit à la pensée du Père et du Fils. C'est l'intention divine de nous rapprocher en communion avec lui. C'est pour cela que le Saint-Esprit joue un rôle central pour notre salut. Un peu pointé, on pourrait dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne vaut pas beaucoup si le Saint-Esprit ne nous illumine pas. Alors là, nous voyons une emphase beaucoup plus organique entre l'économie divine que dans la Réformation, où tout se passe à travers Jésus-Christ. Une autre doctrine centrale des églises orthodoxes, c'est celle de la théose. On dit théose en français, n'est-ce pas? La déification, oui. Théosis. Déification, merci. C'est-à-dire une intention de Dieu de nous transformer dans son image. Cela commence par l'œuvre de Christ à la croix et notre foi, mais le but est d'accomplir par l'action continuée du Saint-Esprit en nous. Alors, cette divinisation, comme nous l'avons lu dans 2 Pierre 1-4, et c'est ça que Wesley aimait dans la littérature orientale qu'il lisait. De plus, on peut dire qu'il y a moins un contraste entre la grâce de Dieu et la libre volonté humaine. On avait cette discussion entre Wesley et Zinzendorf. Et c'est un peu ce que nous pensons. Si on est calviniste, c'est par la grâce, rien que par la grâce de Dieu et par sa prédestination que nous sommes sauvés. Mais Wesley et les orthodoxes, ils pourraient dire, mais c'est une harmonie avec la bonne volonté, pas seulement de Dieu, mais aussi le vouloir de l'être humain. Alors là, on n'a pas ce contraste dans l'Église orientale. Au contraire, nous avons une harmonie entre la grâce de Dieu et les êtres humains qui sont prêts à accepter la mouvance de l'Esprit Saint en eux. La prière, la méditation, le changement de notre caractère par les fruits de l'esprit, la sanctification et les bonnes œuvres, sont toutes réalisées par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Finalement, il y a aussi un autre aspect que j'aimerais mentionner dans la spiritualité orthodoxe, ce qui concerne le Saint-Esprit. C'est que l'Église est tenue par deux piliers. D'un côté, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. De l'autre côté, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Basile le Grand a déjà dit dans le IVe siècle que l'Esprit Saint précède le Christ et qu'il est inséparable du Christ. Ainsi, ce Père de l'Église souligne l'œuvre du Christ dans son Église par la puissance du Saint-Esprit. Pour la théologie orientale, il y a deux aspects importants. Premièrement, le corps de Christ est marqué par une unité indivisible. Deuxièmement, l'Église est aussi marquée par une diversité, parce que l'Esprit Saint crée la plénitude en elle. Alors on a toujours ce mouvement, d'un côté l'unité, la structure, et de l'autre côté la liberté, la créativité. Et ce sont les deux piliers qui font l'Église. D'un côté, nous avons la stabilité en Christ, et de l'autre côté, le dynamisme dans le Saint-Esprit. Nous avons, pour le dire en autre mot, la tension entre l'ordre et les charismes. Alors maintenant, nous pouvons retourner au grand-père du pentecôtisme, John Wesley. C'était lui qui se connaissait dans la littérature spirituelle du Moyen-Âge, c'est-à-dire la spiritualité catholique, avec son emphase sur le Saint-Esprit comme agent du renouvellement. C'était lui qui lisait aussi les théologiens orientaux, avec leur emphase spirituelle qui donnait de la place au Saint-Esprit pour effectuer la sanctification du croyant en harmonie avec la bonne volonté du croyant. Et certainement, Wesley vivait avec la conviction de la réformation, que c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'inspiration en lisant et en proclamant la parole de Dieu. Ni Wesley, ni les pentecôtistes, jusqu'à présent, ont pu réaliser cette vision entière. Mais ceci se pose comme défi œcuménique pour nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais terminer avec une vision prospective et les conséquences pour nous. Premièrement, le christianisme dans le tiers-monde, c'est un défi. Auparavant, les églises dans les pays du Sud se sont définies par les missions et les efforts coloniaux. Maintenant, nous avons une connaissance globale. C'est-à-dire, les chrétiens du Sud sont sensibilisés à la valeur des expériences spirituelles. Et la présence du Saint-Esprit dans la vie personnelle et le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Moi, je suis convaincu que l'expérience pentecôtiste ouvre une dimension œcuménique. Les pays de l'Ouest perdent du poids. Entre-temps, les églises du Sud introduisent de nouvelles valeurs et de nouveau les valeurs traditionnelles. Il y a des nouvelles alliances qui se donnent. La puissance guérissante du Saint-Esprit détruit les barrières et construit des ponts. La réalité de l'Esprit-Saint dans les églises donne un nouveau espoir parce qu'on a commencé de parler dans une nouvelle langue. J'utilise cette métaphore. C'est vraiment intéressant de voir que des chrétiens de différentes traditions ont commencé de parler ensemble. Par exemple, dans les Philippines, dans les grands centres, ce n'est plus possible qu'une petite mission s'occupe de tout. Il y a trop de monde. Et la complexité de la vie dans le 21e siècle, c'est trop difficile. Alors, je remarque qu'il y a ici un groupe, une mission de frères, une mission protestante ou luthérienne, une mission pentecôtiste, et ils se rencontrent, ils parlent ensemble parce que pour faire la tâche qu'ils ont, ils ont besoin de l'un l'autre. D'un côté, c'est peut-être l'aide médicale, d'autre côté, c'est l'enseignement. Et comme ça, les différents groupes, les différentes dénominations commencent à parler une nouvelle langue ensemble. Et on parle de nouveau de puissance, de vitalité, d'expérience spirituelle profonde et même de nouvelles idées. Je sais bien, la situation de les églises de l'Ouest est différente. D'un côté, nous vivons dans une société sécularisée qui veut expliquer tout sans Dieu. Mais d'un autre point de vue, nous avons beaucoup de gens dans une société postmoderne qui désirent de trouver une spiritualité profonde. Alors nous avons aussi un défi dans notre pays, dans nos pays. Quelles sont alors les conséquences pour nous? J'ai que 8. Après, c'est fait, c'est terminé. Premièrement, j'aimerais dire que fondamentalement, les églises pentecôtistes et charismatiques n'ont pas une théologie nouvelle. Mais ils ont introduit de nouvelles formes de spiritualité et des nouvelles dimensions dans la pensée missiologique. Par exemple, l'expérience personnelle du pardon de Dieu, la puissance du Saint-Esprit comme don surnaturel de Dieu et la communion mythique avec Dieu. Deuxièmement, nous trouvons une liaison entre pentecôtistes et charismatiques, non dans leur théologie, mais à travers de leur expérience commune. Il y a 40 ans, 30 ans, il y a beaucoup de gens qui auraient dit « Oh, anathéma, on ne peut pas faire cela. » Mais les temps changent. Alors le salut, la guérison, l'encouragement dans l'esprit, l'ardeur pour l'évangile sont tous des expériences qui nous rapprochent. Troisièmement, nous pouvons prendre l'espoir charismatique au sérieux, que l'Esprit Saint renouvelle notre foi. C'est la dimension catholique, par exemple. Quatrièmement, l'action du Saint-Esprit se limite jamais à l'individu. Souvent, on a l'impression que dans un culte télévisé, tout ce qui est important, c'est l'individu. Ton salut, ta guérison, ton argent. Mais certainement, c'est faux parce que l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est un esprit qui crée des rapports, qu'il donne de la koinonia, de la communion. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de communauté et de communion et du corps. Alors tout effort personnel de se positionner au-dessus de la communauté doit être rejeté. Et c'est peut-être aussi le don de discernement qu'on peut dire ce que tu fais là, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que tu vis une spiritualité égoïste, personnelle. Nous pouvons avoir des expériences très personnelles, mais toute expérience personnelle doit être une expérience qui bénéficie les autres. Le cinquième point serait que le baptême dans le Saint-Esprit est une aide sur le chemin vers une plénitude en Dieu. Ça serait la pensée orthodoxe. D'une part, l'Esprit nous donne le salut par Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. D'autre part, nous avons reçu le Saint-Esprit comme notre sceau en Christ, comme acompte des biens à venir, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus de sanctification pour devenir plus comme Dieu. Et moi aussi, j'aime bien Philippiens 2, 12 et 13, où on voit les deux, des deux aspects, que dans un point de vue, nous donnons tout ce que nous pouvons, et de l'autre point de vue, Dieu nous donne tout ce que nous avons nécessaire. Pour le salut. Le sixième point, là où l'Église donne un poids christologique, elle se donne souvent des structures fortes. Et l'Église est considérée comme institution, par exemple l'Église catholique. Où les structures sans cémenter intellectuellement dans beaucoup d'églises protestantes. Là où la pneumatologie peut s'introduire, nous trouvons une ouverture charismatique. L'Église peut se transformer sans négliger l'œuvre centrale de Jésus-Christ. Il y avait un film dans les années 70 de la conversion de François d'Assise. Et puis, il y a une scène dans ce film où il va à Rome pour demander la permission au pape de commencer une communauté. Et c'est Innocent le III. Si je me trompe pas. Et dans le film, on voit bien que Saint François, il est une simple personnalité. Mais de l'autre côté, la grande église, tous les rois, les évêques. Et après, le pape, avec toute cette structure. Et c'est très bien montré comme le pape ressent cette tension entre la structure, tout qui est donné dans l'Église, et ce mouvement qui s'en fiche d'ailleurs de toute structure, qui est un mouvement charismatique. Et ça serait très intéressant de lire toute l'histoire de l'Église entre cette tension de structure et de charisme. Le septième point, c'est que les frères et les sœurs des églises charismatiques encouragent leurs amis pentecôtistes de découvrir l'action du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église. La plupart des pentecôtistes ne connaissent pas bien leur propre histoire. Mais il y a tellement de richesses dans l'histoire de l'Église. Et je trouve très sympa si je trouve un charismatique protestant ou catholique ou orthodoxe et qui porte qui m'introduisent à leur spiritualité. Alors c'est un don, c'est un des dons œcuméniques, un des fruits de l'œcuménisme. Et finalement, le huitième point, à cause des aspects en commun entre les chrétiens charismatiques et pentecôtistes, irrespectueux de leur pneumatologie, nous gagnons l'impression que nous ne sommes pas confrontés avec une nouvelle théologie ou même spiritualité, mais plutôt avec une nouvelle façon de vivre, une nouvelle Weltanschauung, un regard sur le monde qui reconnaît la présence et la gloire de Dieu dans un contexte imparfait. Peut-être que nous sommes dans la proximité de ce que Jésus a dit à travers les paroles de Jean. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Merci bien.